Bonjour à tous, vous êtes bien sur Fréquence Mistral et on est en direct des Nuits Photographiques de Pierre Vert pour une émission très particulière. Nous allons parler d'images sans images, comme chaque année. Et c'est avec grand plaisir que j'accueille tout d'abord pour ce premier plateau notre ami le président des Nuits Photographiques de Pierre Vert, le grand photographe Stéphane Cosman. Bonjour Stéphane.
Bonjour François.
Tu sais qu'on a l'habitude de se tutoyer et qu'on n'arrive pas à se vouvoyer à l'antenne. Donc on va tout de suite passer dans le vif du sujet. 12e édition qui se déroule au mois de septembre, c'est-à-dire que normalement c'est en juillet, les nuits photographiques, c'est le Covid qui est passé par là ?
Bah oui, c'est une année extraordinaire. Donc nous avons maintenu le festival. Pourquoi ? Parce qu'il y a une équipe qui travaille tout au long de l'année pour préparer ce festival. Donc il était indispensable pour nous de maintenir cet événement qui apporte une énergie et aussi une activité économique pour le village. Tout le village en profite, c'est du win-win, comme on dit en anglais.
Sans oublier évidemment l'activité artistique et culturelle qui nous amène évidemment, bien sûr, de grandes personnalités, notamment des personnalités de l'image. On entendra tout à l'heure Yann Arthus Bertrand, qui était le parrain de cette année, avec plusieurs interventions d'ailleurs de Yann Arthus Bertrand, qui étaient assez magnifiques et en même temps qui ont apporté beaucoup de choses. Comment tu fais pour avoir des parrains aussi prestigieux, Stéphane ? Tu as une méthode ?
Il y a beaucoup de chance et aussi le fait que j'ai eu la chance, encore une fois, pardon, la chance d'être sur un des derniers vols d'Arthus Bertrand entre Paris et New York. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, et pourquoi pas lui ? Et j'ai demandé s'il était possible qu'il vienne à Pierre Vert. Et comme ça se passait bien entre nous, il m'a dit ok. Mais c'était au mois de novembre de l'année dernière. Entre-temps, il y a eu le Covid, il y a eu beaucoup de changements de date. Je ne juge personne, mais on m'a dit que ce serait bien d'annuler l'événement. Mais finalement, tout a été maintenu. Et jusqu'au dernier moment, un préavis de grève TGV le jour où il devait être là. Donc jusqu'au dernier moment, sueur froide.
Bon, et ça s'est très bien passé avec Yann Arthus Bertrand et avec les autres photographes. Il y a un autre parrain aussi qui était présent, un autre ancien parrain, on lui passera la parole tout à l'heure, c'est Jean-Daniel Lorieux. Il était ravi évidemment d'être ici, on va lui demander dans un instant ce qu'il en pensait. Et puis, il y a des jeunes pousses. Et parmi les jeunes pousses, évidemment, c'est les résidents qui viennent depuis 4-5 ans, je crois, hein, Stéphane, sur les nuits photographiques de Pierre Vert. Et cette année, c'est Amélie Vial qui est venue nous présenter ses vraies richesses. Elle est à nos côtés en plateau. Bonjour Amélie. Avec les vraies richesses, alors c'est un clin d'œil à quelqu'un qu'on connaît bien, nous, les vraies richesses. Oui. Pourquoi ce titre particulier à votre exposition ?
Alors j'ai intitulé ça les vraies richesses parce que Frédéric Babin, qui est une des directrices artistiques du festival, avec François-Xavier Emery, que je remercie d'ailleurs, m'a donné le nom de cette rue en me disant il faudrait que tu ailles au Mont d'Or pour faire des photos, là-haut c'est très beau. Et passe par la montée des vraies richesses. C'est la route qui monte au Mont d'Or. Et quand elle m'a dit ça, j'ai écarquillé les yeux et je me suis dit, ah mais c'est tellement beau ce nom, je vais peut-être m'en servir pour le titre de ma série. Et c'est qu'après que j'ai compris que c'était issu d'un des livres de Giono.
Un livre important de Jean Giono, parce qu'effectivement, c'est un livre qui dénonce pas mal de choses. C'est une œuvre poétique aussi, quelque part. Et c'est un livre qui a été important dans la dynamique de Jean Giono, notamment au Contadour. Le Mont d'Or, c'est évidemment la grande colline de Manosque. Comment s'est passé ici même, Amélie, votre mois de résidence ?
Alors, mon mois de résidence a tout simplement été magique. J'ai eu l'impression d'être une princesse pendant tout un mois. J'ai eu la chance d'être accueillie par toute l'équipe du golf du Luberon qui m'a hébergée pendant la durée de ma résidence. Donc je les remercie fortement, chaleureusement. Et puis aussi toute l'équipe des nuits photographiques qui ont été là à mes côtés pour me permettre d'avancer dans ma démarche artistique.
Avec la possibilité aussi, il vous avait donné quasiment carte blanche.
Oui, j'ai eu la chance d'avoir une belle carte blanche où j'étais libre de faire les photos que je voulais.
Alors expliquez-nous, qu'est-ce que vous avez fait justement ?
Alors j'ai beaucoup marché, je me suis vraiment inspirée des éléments que j'ai trouvés dans la région. Bah, une des premières choses que j'ai voulu faire en arrivant, c'était aller voir la lavande. J'avais vraiment très envie de faire des photos dans la lavande.
C'était donc au mois de juillet ?
C'était fin juin, début juillet, oui.
Oui. Parce que la lavande, en ce moment, c'est non, pas terrible. Oui.
Donc puis... la lavande, et puis j'ai passé beaucoup de temps au bord de l'eau. J'ai notamment ramassé beaucoup de pierres, d'ailleurs pour remercier tous les habitants de Pierre Vert. J'ai récupéré beaucoup de pierres vertes qui se retrouvent dans l'installation à la chapelle Saint-Patrice où j'expose, où j'invite du coup les habitants du village à venir récupérer leurs pierres pour les remercier de m'avoir accueilli chez eux pendant un mois.
Alors on va en parler justement de votre exposition à la chapelle Saint-Patrice à Pierre-Vert, c'est pas très très loin d'ici. C'est un lieu que vous connaissiez ou que vous avez découvert ? Comment ça s'est passé ?
C'est un lieu que j'ai découvert pendant ma résidence, donc j'ai pu m'y rendre avant de repartir pour pouvoir m'inspirer du lieu pour créer la scénographie autour de ce lieu.
Vous avez remarqué la sérénité de cet endroit ?
Oui, mais c'est fabuleux.
Et puis en même temps, avec cette particularité, c'est d'être habité maintenant de vos photos et des photos et des clichés très particuliers qui ont été réalisés donc en Haute-Provence au mois de juillet. Qu'est-ce qu'on voit dans votre exposition ? Évidemment, je l'ai vu. Mais je peux en parler, mais je préférerais que ce soit vous qui en parliez, Amélie.
On voit beaucoup d'éléments, en fait. Je me suis inspirée ce que je vous disais tout à l'heure, de la nature. Donc on va retrouver beaucoup d'eau. J'ai passé beaucoup de temps au bord de la Durance. On va retrouver de l'air. On va retrouver également du feu. Et puis j'ai fait des photos aussi de nuit. On retrouve en fait tous les éléments qui se trouvent dans la nature. J'ai des photos qui sont en lien avec la terre que j'ai disposée en bas à même le sol. Voilà un petit peu ce qu'on peut retrouver à l'intérieur de mon exposition. Il y a quelques autoportraits aussi, parce que j'aime bien me mettre en scène dans les lieux que je parcours.
On voit un moment un personnage qu'on croit noyé. C'est vous ?
Oui, c'est moi.
C'est vous ? Bon, mais c'est bien.
C'est pas quelqu'un qui se noie, c'est quelqu'un qui renaît.
Dans l'eau de la Durance.
Tout à fait.
En plus, beau symbole. Avec cette approche de la photographie, je rappelle que vous avez travaillé, enfin je rappelle, je l'ai lu dans votre CV, vous avez travaillé dans un cabinet d'architecture, vous avez une conception donc du graphisme, des volumes très particulières. Ça aide pour la photographie ou c'est une gêne ?
Non, je pense que ça complète mon œil en fait. Je pense que j'ai un regard assez, j'ai tendance à avoir une importance du cadre qui est inspiré de mon parcours professionnel.
Il y a très peu de personnages dans votre exposition. Il y a beaucoup de la nature, effectivement, des galets, beaucoup d'herbes, des plantes. Mmh. Il y a aussi des bâtiments, évidemment. Peu de personnages, c'est un choix ou c'est un hasard ?
Comme j'étais toute seule en résidence, c'est vrai que c'est plutôt un choix. C'est pour ça que je me prends en photo aussi. Pour moi, c'est plus simple en fait de me photographier moi-même plutôt que d'aller demander à quelqu'un que je le photographie. Et après, pour moi, c'était vraiment d'utiliser la nature comme un personnage. Ça devient quelqu'un à part entière.
Vous êtes présente ici en tant que, qu'exposante aux nuits photographiques de Pierre Vert. Vous avez pu visiter les autres expositions et puis croiser d'autres photographes?
Oui, alors j'ai pas eu le temps de faire toutes les expositions, mais j'ai croisé plusieurs photographes. Hier au soir, il y avait les projections aussi où j'ai pu échanger avec différents photographes. Et c'est ça qui est très riche ici, c'est que tout le monde peut se parler. C'est très bienveillant et je remercie encore tout le monde, Stéphane et toute l'équipe des nuits de m'avoir accueilli. Je vais pas avoir envie de rentrer chez moi.
Et oui, mais toutes bonnes choses ont une fin, vous le savez malheureusement. Et puis je crois que pour vous, vous avez un rendez-vous tout à l'heure. Vous avez le vernissage de votre exposition dans quelques minutes d'ailleurs à la chapelle Saint-Patrice à Pierre-Vert. Vous allez donc nous quitter momentanément puisque vous êtes là pendant tout le festival. Merci encore Amélie Vial et puis continuez bien. Il y a beaucoup de choses passionnantes dans vos photos et puis notamment ce rapport à la nature. Vous en avez parlé avec Yann Arthus Bertrand?
Un petit peu, oui. Il a même pris un galet avec lui.
C'est bien, c'est une belle chose. Merci encore, bonne Merci. Continuation et bon festival à
Merci
vous-même.
François.
Stéphane, on a vu que là, une des demandes en filigrane d'Amélie, c'est peut-être d'avoir plusieurs artistes en résidence.
On aimerait bien.
Ouais. C'est une question de finances.
C'est une question de finances. Donc, moi, ça va, je suis de bonne humeur ce matin. Je ne vais pas trop...
pas trop te chatouiller, alors.
Non,
c'est bon.
Non. Écoute, il y a une nouvelle personne à la culture de la DLVA, en l'occurrence Sandra Faure, très dynamique et qui a vraiment envie d'avancer. Donc, je pense que ça va faire évoluer les choses dans le bon sens.
Et puis en même temps, il y a aussi ces rapports que tu tends avec les parrains de l'édition. Et j'ai le grand plaisir d'accueillir Jean-Daniel Lorieux qui nous a rejoint. Bonjour Jean-Daniel.
Bonjour François, bonjour.
Vous avez été vous-même parrain de ce festival, c'était il y a 5-6 ans, c'est ça?
Oui, je pense même que c'était en 2013, oui.
2013, ça fait... Ouh là là, ça fait 7 ans.
Mais oui, la vie passe vite.
Tout augmente. Jean-Daniel, je rappelle, vous êtes un photographe célèbre, vous avez fait beaucoup de photos, notamment des photos de modèles dans la mode depuis des années et des années. Vous continuez d'ailleurs à faire des photos. Quelle est votre actualité?
Eh bien, j'aime beaucoup voyager. Mon actualité, là j'étais aux îles Caïmans faire des photographies de mode pour des maisons de couture, Chanel et autres. Ensuite, je suis allé en Égypte, je devais re-shooter à Cannes. Et puis malheureusement, l'arrivée du Covid a stoppé tout le monde et nous a un petit peu stoppé. Avant tout, je dois dire que pour moi, c'est un immense plaisir d'être invité par Stéphane Kosman, qui est devenu l'ami de mon cœur, et surtout de voir l'évolution extraordinaire qu'il y a eu pour ce 12e festival. C'est vraiment merveilleux de voir cela et d'avoir aussi le plaisir de rencontrer cette grande célébrité qui est Yann Arthus Bertrand. Et les conférences et les films qu'il a fait, qu'il nous a montré, c'était vraiment fantastique. C'était beaucoup de chance pour nous et je pense pour également tout le public qui vient de voir ce qu'est devenu ce festival. Donc je vous remercie infiniment d'être présent là.
Je confirme, Jean-Daniel. Effectivement, oui. C'est un plaisir pour nous d'avoir des grands photographes et en même temps de découvrir aussi des talents. C'est une bonne chose. Vous êtes dans le métier depuis déjà, on va dire, une belle paire d'années, hein, 40-50 ans.
Oui.
Vous avez vu évoluer, vous, la photographie?
Oui, alors j'ai vu beaucoup l'évolution de la photographie. Et maintenant, évidemment, je pense que tout le monde peut faire des photos avec les téléphones et tous les nouveaux appareils photographiques numériques, mais beaucoup de photographes actuellement, et moi aussi, on me dit depuis 10 ans, les photos que tu fais, c'est vraiment nul, c'est vraiment pas bien, tu devrais refaire du film. Et je trouve effectivement que dans un certain style de photographie, le film nous apporte une qualité, des tons, en tout cas que moi j'aime beaucoup. J'aime que les couleurs soient violentes, que les bleus soient bleu marine, que le rouge soit fort. Et je trouve que la couleur nous apporte le bonheur et je trouve que peut-être beaucoup de jeunes nous doivent aussi de montrer la couleur, de montrer quelquefois la couleur, parce que les temps pour la nouvelle génération, les temps deviennent quand même beaucoup plus difficiles, beaucoup plus durs avec tout ce qui se passe. Et je pense qu'on a besoin de recevoir du soleil quand tout est gris, et quand la vie est grise et quand le ciel est gris. Mais je dois dire que j'ai eu grand plaisir, et je suis toujours là, à l'exposition. Par exemple, en entrant, j'ai vu l'exposition « Fenêtre sur le confinement », avec ce qui se passait avec le Covid. Et je trouve que les images qu'a fait Valentin Curtet avec Andrea, je crois la jeune fille, ben, je trouve que c'est plein de bonheur, plein d'humour, et ça fait plaisir. En revanche, alors j'ai été complètement bouleversé en voyant Mad Syria, qu'a fait le merveilleux personnage et le merveilleux photographe qui est Chris Ubi. Je trouve que c'est extraordinaire que des hommes vivent encore cela. Moi, j'ai commencé, mais pas en étant volontaire, en étant photographe de guerre en Algérie pendant une trentaine de mois. Et aussi, nous avons eu beaucoup de choses assez atroces, mais ça ne s'appelait pas la guerre à l'époque, c'était pas la guerre d'Algérie. Mais dans mon cœur, cela est resté. Je vous demande pardon de parler de moi, François, mais je trouve que nous avons tous un déclic qui fait que quelquefois on bascule. Et moi, j'étais ingénieur en mécanique, et tout à coup, j'ai eu envie de crier et de me dire qu'il fallait montrer que la vie est belle, que le soleil est là. Et on a toujours besoin, je crois, plus la vie devient difficile, d'envoyer des images qui vous donnent un petit peu de rêve. On a besoin de cela. Donc j'ai énormément apprécié, en tout cas, toutes ces images que fait Chris Ubi. Merveilleux également, comment s'appelle, Laurent Elie, Batsy, pour l'enfant avec les armes. Tout ça, ce sont des choses extraordinaires, fortes, mais il faut aussi basculer, il faut montrer un petit peu tout, je crois. Il faut montrer justement le combat qu'est la vie, car la vie est un combat. Même quand on fait des images avec du soleil, ben il y a une combativité. Mais je crois que nous devons toujours apporter du rêve, écouter de la jolie musique. Et plus la vie est difficile, plus nous avons besoin de rêver, je pense, François.
C'est un beau message. Merci, Jean-Daniel. Juste quelques précisions. Quand vous dites film, évidemment, c'est la pellicule. Hein,
oui,
c'est un photographe qui parle. C'est pas du cinéma.
Oui, oui.
Et puis, vous avez cité, par exemple, Valentin Curtet. C'est un travail magnifique qu'il a fait pendant le confinement.
Oui.
Avec sa voisine qui a posé donc c'était deux personnes confinées, un artiste et puis une comédienne confinée. Et qui ont mis en scène une relation photographique, c'est exceptionnel.
Avec
et
beaucoup de joie aussi.
Oui,
dedans.
Exactement.
Oui. Voilà.
Exactement.
Voilà. Je voulais rappeler juste une chose, c'est que Jean-Daniel a fait des films aussi. Je crois qu'on a tous en tête Comme un ouragan de Stéphanie de Monaco. C'est Jean-Daniel Lorieux. Voilà, je voulais juste le rappeler.
C'est gentil. Oui.
Les vrais films, donc les films qui bougent, quoi.
Oui, mais pour montrer la joie, le bonheur, la musique et nous aidons des personnes, mais de faire de jolies choses, nous recevons aussi, il y a un retour des vagues qui nous revient à la tête. Donc je crois que quand on aide quelqu'un et que les choses se passent bien, nous recevons tous un bouquet de fleurs qui est le bonheur.
Et ce sont des beaux messages. Un message qui a été fait aussi par Yann Arthus Bertrand.
Ah, merveilleux.
Sur scène,
oui.
qui était extraordinaire. Mais on va l'entendre dans un petit instant. Je vous propose d'écouter un autre invité pour notre plateau. Il s'agit de Abed Abida, qui expose à la salle polyvalente. Il a fait un travail sur l'Algérie très particulier. Il va nous en parler. C'est Algéroïde. Et puis, il est surtout éditeur de livres de photos. Bonjour, Abed. Algéroïde, c'est évidemment un clin d'œil au Polaroid. On a oublié une chose à l'heure du numérique, c'est combien les Polaroids étaient des outils d'animation dans les fêtes familiales ou simplement dans les voyages. Et c'est ce que vous avez remis à l'honneur en Algérie en offrant les tirages instantanés des Polaroids, des photos que vous avez faites.
En effet, en fait, j'ai découvert donc le Polaroid et la technique du Polaroid tout récemment. Hein. C'est un ami qui m'a montré le travail. Donc,
parlez bien en face de votre micro, s'il vous plaît.
Et donc, voilà, j'ai pu me munir d'un appareil photographique donc des années 60-70. Et en fait, voilà, j'ai décidé d'utiliser notre technique photographique argentique. Et c'est vraiment une technique où on, prise de vue, où on prend le temps. Et c'est surtout où on va rencontrer les gens. Et on va leur demander, donc, moi je leur demande l'autorisation de prendre la photo, de faire des portraits. Et en fait, l'intérêt, c'est de prendre la photo, leur donner le tirage. Donc c'est un tirage unique. Et puis garder ce papier noir que d'habitude donc on jetait, en fait c'est un négatif, donc c'est la restitution donc de ce tirage et qu'on traite chimiquement, donc c'est basique hein, avec un peu de javel, et après on a ce négatif qu'on scanne et qu'on peut utiliser donc indéfiniment pour pouvoir donc faire des tirages numériques ou argentiques couleur.
Comment est-ce que ça s'est passé quand vous questionnez d'abord une personne, vous demandez est-ce que je peux vous prendre en photo et puis après je peux vous la remettre, je peux vous la donner. Comment ça se passe ce lien?
Tout d'abord, donc grâce à cet appareil photo, c'est se permettre de prendre le temps. Donc à l'ère numérique, je suis pas en train de dénigrer le numérique parce que j'utilise aussi l'appareil photo numérique. Et en fait, c'est vraiment prendre le temps. De se balader, de photographier, de rencontrer les gens, même d'aller faire des photos de paysages. Et donc, je croise une personne. Bon, là, par exemple, la photo que vous avez là, donc en main, là,
c'est une photo qui est dans le dépliant des nuits photographiques.
Et en fait, c'est des migrants. C'est des Africains donc, que j'ai rencontrés. J'ai discuté avec eux. Je les ai suivis, je les ai aidés. Donc c'est là aussi, c'est une rencontre, hein, c'est permettre de rencontrer les gens. Et en fait, je leur demande l'autorisation de faire une photo. Et après, je leur dis, je vous donne la photo. Et même, il est arrivé des personnes qui, en leur donnant la photo, ils voulaient me donner des sous. Parce qu'en fait, ils pensaient que j'étais un photographe de rue. Ça se fait encore, hein, des gens qui font des photos avec le Polaroid et qui vendent la photographie. Non, moi, je donne la photo. Donc c'est un don.
Est-ce qu'on trouve actuellement des appareils Polaroid actuels, enfin récents?
Oui, ça revient un peu à la mode. On fabrique même des appareils photo Polaroid, même qui sont dotés d'une carte qu'on peut aussi numériser. Mais par exemple, l'appareil que j'ai, c'est un appareil des années 60. Il n'existe plus aujourd'hui d'entreprise, de société qui fabrique les cartouches. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on travaille avec notre stock. C'est-à-dire qu'il me reste à peu près une quinzaine de cartouches. Ça fait à peu près 150 photos. Donc, on ne compte pas les rater. Donc, ce qui veut dire que peut-être dans un an, deux ans, je n'aurai plus l'occasion de photographier de cette façon-là. Quoi.
Vos fournisseurs, ce sont des antiquaires? Comment ça se passe?
C'était une marque japonaise qui fabriquait, qui a arrêté en avril 2018, il me semble, je crois, si je ne me trompe pas, ou 2019. Et aujourd'hui, on trouve dans eBay des cartouches, mais qui sont excessivement chères.
Alors Abed, cette expérience que vous avez faite à Algéroïd et qui est affichée ici même à la salle polyvalente, c'est une de vos activités, mais vous êtes aussi éditeur et vous éditez des livres évidemment de photographie. Vous êtes éditeur à Marseille. Comment ça se passe?
Alors, tout d'abord j'étais photographe et après je suis tombé comme ça, donc, c'était un hasard, donc je suis devenu éditeur. Donc aujourd'hui on fête les 20 ans d'Images Plurielles. Et donc, au fil du temps, c'est les rencontres avec les photographes, c'est les contacts. Et donc, du coup, on a une trentaine de livres, une vingtaine de coffrets photos. Et voilà, c'est une maison d'édition qui on est basé à Marseille, qui édite des ouvrages de photographes connus, inconnus, des débutants et qui fait vraiment un travail sur. Voilà, par exemple, je donne un exemple. Donc ici à Pierre Vert, il y a un photographe qui a été invité et qui s'appelle Laurent Elie Badessi, qui a une exposition. Donc nous, on a édité son travail qui s'appelle Age of Innocence. Je pense que vous allez en parler, je crois.
Oui, il sera notre invité dans un instant.
Voilà, et donc il nous a contacté. On a vraiment été sensible à son travail Et donc, du coup, on a édité son projet photo sur les enfants et les armes à feu aux États-Unis.
Comment est-ce que vous diffusez vos livres, Abed ?
Alors, là, c'est une diffusion classique. Hein. On fait appel à des diffuseurs professionnels. Hein. C'est une diffusion nationale, internationale. On a deux diffuseurs. Un diffuseur pour les livres et un diffuseur pour les coffrets photographiques. Et ça se passe relativement bien, sauf ces derniers temps où il y a eu l'histoire du Covid et le confinement, où ça a été vraiment une catastrophe pour tous les éditeurs et pour d'autres aussi corporations en lien avec le monde de la photographie.
Je suppose que vous avez un site internet, on peut donner l'adresse de votre maison d'édition.
Exactement, donc même je vous invite à aller voir donc nos travaux photos, hein. C'est www.imagepluriel.com, tout en minuscules attaché.
Et puis pendant le festival, bien sûr, venez voir Algéroïd. Vous verrez des gens pris sur le vif et qui sont tous des anonymes et qui sont passés par le Polaroid d'Abed Avida. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Et puis on vous retrouve aussi, bien sûr, dans la salle polyvalente sur votre stand.
Merci à vous.
Merci Abed. Stéphane. Un invité prestigieux quand même pour les nuits photographiques, Yann Arthus-Bertrand. Tu nous as raconté cette rencontre inopinée dans un avion, cette fidélité, cette amitié qui s'est nouée avec Yann. Il a passé 2 jours ici même à Pierre Vert. Qu'est-ce que tu en retiens ?
Je retiens que c'est quelqu'un qui a une parole. On a dit beaucoup de choses sur Yann et en fait j'ai découvert quelqu'un qui a joué le jeu ici. Il a pris beaucoup beaucoup de temps, ce qui n'a pas été évident puisque Yann prenant du temps, s'arrêtant, parlant d'écologie, on a fait venir une copie du film Woman à Manosque et toute une classe est venue aussi pour voir le film. Donc à un moment, j'ai essayé de justement pour pouvoir emmener Yann sur d'autres expositions de couper l'entretien. Mais il dit non, on répond à toutes les questions. Ce qui a fait que malheureusement, on n'a pas pu aller sur certains lieux. J'ai présenté mes excuses hier soir au public en disant voilà, on a essayé de faire le maximum. Yann a un emploi du temps extrêmement chargé. Voilà, il était là. Et vraiment, on a essayé d'en tirer parti. Enfin, c'était une conversation entre nous deux. Voilà, il a vraiment joué le jeu.
Je dois dire que j'ai assisté à cette rencontre avec les lycéens de Manosque au cinéma CGR à Manosque. Et effectivement, il était très disponible avec ces jeunes. On imagine pour ce photographe mondialement connu, âgé de 74 ans quand même, et qui rencontre des jeunes lycéens et qui dit « on va vous laisser la terre dans un état abominable et c'est vous qui allez, c'est nous qui sommes responsables et c'est vous qui devez gérer ça maintenant. » Donc il y a une part de culpabilité de notre génération par rapport aux générations émergentes. D'habitude, dans ce festival, Stéphane, les photographes donnent des leçons de photographie. On a eu plusieurs photographes qui sont venus nous dire comment on cadre, comment on utilise tel éclairage, telle couleur, etc., etc. Lui, il nous a fait plutôt une leçon d'humanité.
Tout à fait. C'était pas évident pour nous, équipe des nuits photographiques, d'avoir une présentation. On, à un moment, on ne savait plus comment est-ce qu'on faisait que Yann. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a décidé de faire avec François-Xavier. On voulait mélanger, on voulait avoir des photographes après son intervention, mais ça devenait difficile. Et évidemment, aussi, on avait, tu sais que chaque année, on a un ingénieur du son, enfin, ils sont plusieurs à faire les montages vidéo, et on avait beaucoup de matériel pour faire quelque chose, et finalement, on a laissé faire Yann avec sa présentation parce que il y a tellement de choses. Il y a les photos, il y a les films, et on s'est retrouvés, on était un peu pris de court, tu vois. On lui a vraiment donné une carte blanche.
C'était superbe parce que la blancheur, selon Yann Arthus-Bertrand, c'est plutôt dans le vert et dans le bleu. Et puis il y a beaucoup de puissance, beaucoup de évidemment de qualité esthétique. On le sait dans ses films, dans ses photos. Mais en même temps, il y a du sens.
Il y a du sens. Il y a un franc parler aussi.
Attention aux ressources de la terre qui sont en train de s'épuiser. Attention au pétrole. attention également à tout ce qui concerne l'eau, les consommations qu'on peut avoir, on mange trop de viande, etc., etc. Tout ce message et en même temps, c'est un message qui passe bien dans la société actuelle, mais lui se sert de l'image pour ça. Et en même temps, il est, et on s'en est rendu compte ici à Pierre-Vert, il est en phase avec le public et il adore les rencontres. Je vous propose d'écouter justement Yann Arthus-Bertrand. C'était le soir de sa projection, juste avant sa projection. Il m'a accordé quelques minutes et on parle et de sa démarche et aussi un petit peu d'image. Et on se retrouve tout de suite après pour la deuxième partie de cette émission.
Merci.
Yann Arthus-Bertrand, il y a l'image dans votre vie, bien sûr, mais on peut dire qu'il y a deux axes, c'est la biodiversité et l'humanité.
En fin de compte, je pense que la beauté du monde, c'est bien sûr la beauté esthétique que j'ai essayé d'attraper, qui m'attirait pendant des années. J'étais au bout du monde pour regarder la beauté du monde et la photographier. Puis aujourd'hui, je m'aperçois que la beauté du monde, ben, c'est peut-être simplement les bénévoles qui sont là, qui sont en train d'aider pour un travail qu'ils aiment. C'est les gens qui s'occupent des réfugiés, c'est les bénévoles des Restos du Cœur. Cette beauté-là m'intéresse plus aujourd'hui que la beauté du monde esthétique.
Vous avez un côté militant aussi, puisque vous défendez une certaine qualité de vie sur la Terre et puis une qualité des rapports humains également.
Pas toi ? Toi aussi ?
Si, bien sûr.
Alors on est tous militants. Je ne suis pas plus militant que toi, je crois. On est tous... Le problème, c'est quand tu deviens connu, un peu par hasard, parce que les choses, tu fais de la télé, ben, je pense que tu as une vraie responsabilité quand tu parles de dire des choses qui sont importantes, pas forcément des choses intelligentes, mais au moins des choses que tu crois justes et de le dire fort. On parle aujourd'hui quand même, et ça c'est drôle parce que on parle quand même de la survie de l'humanité. Quelque part, tu as 15 000 scientifiques qui ont fait la une du monde, qui ont dit attention, si on continue comme ça, on va vers la sixième extinction. Sixième extinction, c'est pas un truc rigolo. Regarde, quand tu vois les enfants qui jouaient tout à l'heure là-bas, tu sais que ces enfants vivront un monde différent du mien, je le sais. D'ailleurs, on a bien vécu cet été ce qui vient de se passer, les incendies, la Sibérie, les cyclones, la sécheresse en France. On voit bien qu'il est en train de se passer quelque chose. Tout le monde est un peu inquiet pour l'avenir. Et en fin de compte, tu te dis, mais... Moi, je suis extrêmement pessimiste. Je vois les chiffres, puis je vois qu'on n'est pas capable de changer. Mais dis, mais on pourrait changer si on veut. Si demain, on décidait chaque année d'émettre 10% de moins de CO2, simplement de limiter notre production, notre consommation d'énergie fossile, ce serait assez simple. En fin de compte, les pesticides, c'est la même chose. J'ai l'impression qu'on n'y arrive pas, qu'on est toujours sur le même... Moi, j'ai été à toutes les COP. Et là, en fin de compte, tu vois, les émissions de CO2, ça n'a pas bougé d'un gramme avec toutes les COP. Quoi. On est vraiment dans un monde... On parle des pesticides, on est toujours dans le même monde qu'avant. Alors, il y a beaucoup d'énergies renouvelables, mais les énergies renouvelables, elles se sont additionnées aux énergies fossiles, elles ne sont pas soustraites. Ça ne sert à rien, quoi, en fin de compte. Alors, on est un peu dans un truc où on a tellement envie d'espoir que l'espoir nous cache peut-être la réalité. On doit tous, l'un et l'autre, mettre les mains dans le cambouis et dire, okay, moi, qu'est-ce que je peux faire? Parce que je pense, mais vraiment, sincèrement, que tous, dans notre zone d'influence, on peut faire quelque chose. Le journaliste, le boulanger, l'architecte, le maire, voilà, il n'y a pas de gens qui peuvent faire... Il y en a qui peuvent faire un peu plus que les autres. Mais il ne faut pas croire que c'est les politiques qui vont changer le monde. C'est toi qui vas le faire tout de suite, maintenant. Il ne faut pas demander aux autres de le faire, surtout. Il ne faut pas reprocher aux gens de faire ce que tu n'as pas envie de faire. De ne pas faire ce que toi, tu n'as pas envie de faire non plus. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant, parce que quand je vais dans les écoles, je vois les enfants sauver la planète, tu vois, ils me disent, oh, c'est génial d'aller aux écoles, mais j'ai envie de leur dire, mais arrêtez de mettre sur les épaules des enfants toutes les conneries qu'on a faites toute notre vie. Aujourd'hui, c'est à nous de décider, c'est pas aux enfants de réparer tout ce qu'on a fait. C'est pas bien, c'est une hypocrisie totale.
Est-ce que par hasard, vous vous sentez l'âme d'un lanceur d'alerte ?
Ouais, non, mais moi, je me sens l'âme d'un mec qui s'améliore tous les jours, j'espère, tout simplement. Non, parce que lanceur d'alerte, en écologie, je pense que la personne qui a le plus touché les écolos depuis très longtemps, c'est la petite Greta. Parce qu'elle a ce côté complètement pur, complètement arrivé, tu vois, elle est un peu comme une espèce de Jeanne d'Arc, tu vois, qui dit des... En plus, ce qui est assez étonnant, c'est qu'elle souffre elle-même quand elle parle. Donc tu sens sa souffrance, et donc c'est assez émouvant. Moi, j'ai tellement fait d'hélicoptères, tellement d'avions, tellement pollué que, tu vois, je me retourne un peu sur ma vie, j'essaye d'enlever les choses, mais est-ce que je veux la légitimité pour en parler? C'est pas sûr.
Vous êtes ici à Pierre-Vert, dans le fief de Stéphane Kaussmann, une belle rencontre, et qui nous a permis de vous avoir à nos côtés.
Ben oui, j'aime beaucoup Stéphane, il est très convaincant et j'avais dit oui et il m'a rappelé tous les mois pour être sûr, tu viens. Donc il n'est pas question de me défiler.
Vous êtes gourmand des rencontres, on l'a vu.
Tu sais, je pense que d'être écolo, c'est aimer les gens, plus que tout. Et c'est pour ça d'ailleurs l'échec de l'écologie politique, parce que je pense qu'elle n'aime pas les gens. C'est Guémard et Rocard qui m'avaient dit un jour que la méchanceté est une qualité chez l'homme politique. Alors tu vois, voilà, t'as pas envie d'y aller, quoi.
Yann Ernest Bertrand, qui était en direct à Pierre-Vert, dans le cadre de notre émission, bien sûr, sur Fréquence Mistral, mais aussi, il a passé deux jours ici même à Pierre-Vert, à rencontrer des gens avec une gourmandise très particulière, et surtout avec un timbre spécial pour pouvoir parler d'écologie, parler du réchauffement climatique et de ce qu'on peut faire, nous, chacun de notre côté. On va changer complètement de sujet, mais toujours dans la photographie. J'ai le plaisir d'accueillir Laurent et Elie Badessi. Avec un travail très particulier, vous avez votre exposition qui est visible ici à Pierre-Vert, à la Ferme Sainte-Marguerite, c'est Age of Innocence. Autrement dit, on se retrouve aux États-Unis. Avec l'âge de l'innocence, ce sont des enfants, mais avec un objet que dans les États-Unis, tout le monde côtoie et connaît fort bien, pas du tout chez nous en France, c'est l'arme. Et vous avez tout simplement photographié des enfants américains tenant des armes dans la main. C'est un beau contraste.
Oui, donc effectivement, ce sont des armes à feu, ce qu'on est... En France, beaucoup moins habitué à avoir l'occasion, surtout, de voir des enfants avec des armes. Donc, ça fait une trentaine d'années que je vis aux États-Unis. Et au début, j'ai habité au Texas. Et c'est là où j'ai été confronté à cette culture de l'arme à feu qui est vraiment unique à ce pays. Je crois qu'il n'y a pas d'équivalent ailleurs. Qu'aux États-Unis. Donc, ce qui m'avait surpris surtout, c'était que des enfants, même très jeunes, étaient initiés aux armes à feu.
Chez nous, par exemple, en France, quand on dit armes à feu, on pense police, gendarmerie, armée, voire chasseurs.
Oui, chasseurs.
Mais c'est tout. Alors qu'aux États-Unis, c'est toute la société qui est imbibé par cette mythologie particulière de l'arme, que ce soit les westerns ou autre chose, effectivement. Est-ce que depuis, vous dites que vous habitez aux États-Unis depuis 30 ans, depuis ces tueries abominables, notamment dans des établissements scolaires aux États-Unis, des tueries de masse, est-ce qu'il y a un changement qui se dessine aux États-Unis?
C'est-à-dire que c'est très politique et la population est très divisée sur ce sujet. Il y a des lois qui sont changées, mais en fonction après des partis politiques qui sont élus, les lois sont souvent abrogées, on change ou on les modifie, et c'est vraiment très particulier parce qu'on se rend compte que c'est très politique.
Il y a le lobbying aussi de la NRA.
Exactement.
Cette association qui
défend est très puissante et qui existe presque depuis que les armes soit très présente aux États-Unis, puisqu'en fait la prolifération des armes vient à l'âge de l'ère industrielle, où finalement une arme était, on en faisait une par une, et quand on a pu en faire à la chaîne, il a bien fallu les vendre. Donc ces personnes qui, comme Colt et Winchester, pour citer finalement que les deux plus importants, ont complètement modelé et créé cette culture de l'arme qui n'existait pas avant.
Alors généralement, nous, nos enfants, ils jouent avec plutôt des ballons, des jeux vidéo, des jeux de société. Là, ils apprennent à jouer, entre guillemets, avec des fusils d'assaut.
Oui, alors c'est très particulier parce que finalement, bon, plus l'enfant est jeune, il peut être amené à confondre le jeu, la réalité, puisque une arme n'est pas un jouet, mais quand même, et ça c'est pas qu'aux États-Unis, puisque nous, et même moi en grandissant, j'ai eu l'occasion d'avoir un pistolet avec des balles en caoutchouc, des choses comme ça, et dans mon projet, j'ai décidé d'explorer cette culture de l'arme au travers des enfants, puisque bien évidemment ils sont la future génération. Je les ai questionnés aussi, en fait, pendant la séance de prise de vue, j'ai toujours posé la même question, what do you like about guns, qui veut dire qu'est-ce qui te plaît dans les armes, et c'était très intéressant de voir les réponses, parce que je tiens à le préciser, je n'ai pas invité que des enfants qui étaient issus de familles pro-gun, mais comme l'opinion est très divisée aux États-Unis, j'ai voulu aussi inviter des enfants à poser avec leurs armes jouées, et de, d'également répondre à cette même question. Donc on voit très clairement que si on est élevé dans une famille où les armes à feu sont très présentes, ou alors si on n'est pas du tout habitué à être entouré de vraies armes, les questions, les réponses changent complètement. Et c'est un peu noir et blanc, quoi.
On va signaler quand même, je l'ai pas dit au départ, mais chacun le sait, hein, malheureusement, le port d'armes est libre aux États-Unis et c'est inscrit dans la Constitution.
Oui, c'est, ouais,
et donc c'est l'une des difficultés, et c'est l'un des points d'achoppement d'ailleurs entre Joe Biden et Donald Trump. J'ai du mal à prononcer ce nom, hein, quand même, ici même.
Ouais.
Et bon, et donc c'est vrai que on va voir si l'évolution de la mentalité américaine. Je suis assez sceptique là-dessus. J'ai une question. Question très directe à vous poser, Jean-Élie. Est-ce que vous êtes armé aux États-Unis, vous-même?
Moi, personnellement, non. Je suis pas du tout. En plus, étant français, j'ai jamais vraiment eu l'occasion d'être entouré d'armes. Bon, quand j'étais gamin, comme tout le monde, j'avais un petit pistolet. Ça, c'était marrant. Mais les seules personnes avec qui j'étais en contact, c'est peut-être quelques chasseurs à côté de notre maison de campagne, mais c'était pas plus, quoi. Ou alors, bon, après, comme vous l'avez dit, François, si on est dans un corps de métier où il y a une nécessité d'avoir une arme, comme les policiers, gendarmes, ou tout ça, mais on n'a pas du tout cette culture. Et c'est ça qui est frappant. Parce que là-bas, les gens sont beaucoup de personnes donc, que j'ai rencontrées, puisque j'ai fait ce travail sur 4 ans. De 2016 à 2019, donc j'ai fait à peu près 100 de portraits, donc j'ai rencontré beaucoup de familles, et il est vrai que au-delà d'aller au club de tir ou chasser, aimer chasser, les gens sont vraiment armés pour se protéger. Et d'ailleurs, ce qui est assez frappant quand on lit les commentaires des enfants, c'est de voir que même s'ils ont 5, 6, 7 ans, ils vont dire « j'aime les armes parce que ça me permet de nous protéger contre l'ennemi de notre famille ». Et finalement, qui est vraiment l'ennemi? Ça, c'est la question.
C'est une grande question que se posent tous les Américains dès leur naissance. Qui est l'ennemi? Et puis bon, il n'y a pas de réponse, de toute façon.
Bah, de toute façon, c'est un formatage. Hein. Je veux dire, c'est vraiment dans l'éducation. Hein. Mais on le voit aussi parce que finalement, dès que ces enfants, même qui sont... Il y en avait qui avaient 3 ans, 4, 5 ans, même s'ils sont en très jeune âge, dès qu'ils ont cette arme dans les mains, ils deviennent presque comme des petits adultes. C'est très curieux. C'est-à-dire que là, on sent qu'il y a un changement, qu'ils sont quand même conscients que l'arme est dangereuse et peut tuer.
Et c'est une horreur, un passage initiatique par l'arme, vous vous rendez compte. Bon, enfin, merci beaucoup Laurent Elie. Et
merci à vous.
Je remarque que
François,
vous avez gardé, que vous êtes un Français dans l'âme, sans air bien sûr, et que vous gardez donc cette fraîcheur de tout simplement de la culture française très, très particulière. Votre exposition est visible et vous êtes encore présent au festival.
Voilà.
Et c'est à la ferme Sainte-Marguerite.
Sainte-Marguerite et le vernissage
Age of Innocence.
Plus tard. Merci.
On va continuer François à parler d'un conflit. Merci à vous. D'un conflit très particulier. Oui, Stéphane, tu voulais intervenir.
Oui, je voulais remercier Laurent qui est New-Yorkais comme moi. On s'est rencontrés à New York et qui a vraiment... on a le plaisir de l'avoir ici. Elle fait le déplacement spécialement pour montrer son travail ici. Donc je te remercie, Laurent, à nouveau.
C'est super de m'avoir invité, c'était un grand plaisir. Merci.
C'est super, ces Français de New York qui nous envahissent, c'est parfait, on en redemande. À nos côtés, Chris Hubi qui nous a rejoint. Bonjour Chris.
Bonjour François.
Chris, vous avez une exposition très particulière ici même, c'est Mad Syria, autrement dit la Syrie folle. Vous avez passé plusieurs années, une dizaine d'années en Syrie. Vous êtes un photographe professionnel également. Vous voulez nous expliquer, vous essayez de tenter de nous expliquer, parce que c'est hyper compliqué, les tenants et aboutissants du conflit en Syrie depuis 10 ans.
Absolument. Alors, je suis basé à Paris pour préciser, je n'ai pas passé 10 ans en Syrie, ce serait très compliqué, mais j'y vais très régulièrement. J'y ai fait plus d'une dizaine de voyages depuis presque une dizaine d'années. Et le but, effectivement, de cette exposition est censé résumer au possible la guerre et le conflit syrien, ce qui est a priori plutôt impossible à faire en 76 photos, vu la problématique multiforme et protéiforme de ce conflit qui est très particulier, très tribal, et qui a changé de forme de nombreuses fois et qui n'arrête pas encore de se transformer ces derniers temps. Donc pour moi, ça a été un choix de proposer beaucoup de photos pour tenter de montrer les différents passages et les mutations de ce conflit.
Chris, lorsque vous avez décidé de faire une exposition sur ce que vous avez vécu en Syrie et d'exposer tout ça, vous avez voulu aussi expliquer ce conflit. Et là, c'est une sacrée tâche.
Oui, et je dirais même que c'est complètement impossible. Faut savoir quand même que j'ai appuyé sur le bouton plus de 33 000 fois, parce que j'ai compté les photos avant de faire le tri, avant de venir ici. Ça a été très délicat. Donc le travail que j'ai fait cet été pour composer l'exposition était de revenir sur tous mes reportages qui ont été diffusés, puisque de fait, les reportages dans les journaux français et internationaux ont évidemment suivi l'actualité. Et d'une certaine manière, c'est le but de mon travail, c'est d'éclairer ce conflit depuis toujours. Donc quelque part j'ai fait une chaîne depuis le début, donc des premiers déplacés, réfugiés, les premières manifestations, et puis évidemment les premiers rebelles qui se mettent en route, jusqu'à ces derniers temps où on parle beaucoup des Kurdes et de la chute de l'État islamique en Syrie. Mais j'avoue que ça reste quand même complexe, et je dois expliquer, même pendant l'exposition, malgré les légendes et les pancartes, beaucoup de choses.
Alors vous avez suivi notamment les Kurdes, vous venez de le dire. Vous avez suivi aussi, je suppose, l'armée rebelle syrienne, ou des factions très particulières. Il y en a énormément, bien sûr. Quand on est embed, c'est-à-dire quand on est pris en charge par un groupuscule, on n'est pas un peu manipulé?
Alors, c'est la grande question, en fait, des nouveaux conflits. Faut savoir qu'une photo aujourd'hui, contrairement à il y a une vingtaine d'années quand on était encore en pellicule, une photo arrive sur Internet et est distribuée dans le monde entier. Ce qui change évidemment la force de l'information, parce que, voilà, avant on était dans un magazine comme Paris Match, ça restait globalement en France, et puis point final. Aujourd'hui, une photo, ça débarque partout à la seconde près, grâce aux agences type AFP, IP, Reuters et compagnie. Et ça fait le tour du monde. Donc, les photographes, notamment, et les journalistes, sont pris pour cible. Donc, il y a, de plus en plus, une manipulation de l'information et une censure immédiate de l'information quand elle est possible. Ça peut aller, évidemment, jusqu'au crime de certains journalistes. C'est le cas en Syrie. Les journalistes syriens ont été enlevés, tués. Il y a eu des Occidentaux qui ont été enlevés, d'autres tués, bien évidemment. C'est compliqué. Donc, beaucoup de groupes, notre travail numéro un, évidemment, c'est d'essayer d'être factuel et de faire attention à ce qu'on nous raconte et à ce qu'on nous montre. C'est pour ça que moi, j'insiste, en fait, depuis une dizaine d'années, parce que il y a eu des camps aussi qui se sont faits autour de l'information en Syrie. Il y a des pro-rebelles, des anti-rebelles, des pro-Damas, on le sait, selon les convictions politiques de chacun. Et les Français sont très forts là-dessus. Donc, moi, j'essaye de montrer un peu tout. C'est très compliqué, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas que je sois dans certains camps, et d'autres qui adorent que je sois là. Donc je me méfie des deux côtés, parce que les gens qui adorent, on se demande si parfois ils ne fabriquent pas l'information. Donc, bien évidemment, on réfléchit avant de faire n'importe quoi.
On voit beaucoup de choses dans votre exposition, et évidemment ça permet de mieux comprendre, en tout cas mieux appréhender ce conflit très très particulier de la Syrie ces 10 dernières années. Juste une petite quelques phrases et quelques explications sur ce que vous appelez les lionceaux.
C'est depuis évidemment la fin de l'État islamique au Moyen-Orient, si tant est que ce soit exact. Une question qui se pose en Irak et en Syrie, c'est-à-dire que l'État islamique a fait naître ou a emporté des jeunes enfants qui sont devenus des enfants soldats. Voilà, et qui sont, pour certains, possiblement des kamikazes ou qui n'ont pas peur au combat. Bref, ce sont des enfants fondamentalisés. Il y en a eu, par ailleurs, par le passé, dans toutes les guerres. Ça a été très connu en Afrique noire, en Sierra Leone et Liberia. Il y a eu beaucoup de documentaires sur la question, mais c'est aussi le cas en Syrie. Aujourd'hui, c'est un peu mon travail de savoir ce que deviennent ces jeunes gens, parce que c'est l'une des questions qu'on se pose depuis quelque temps, notamment parce que des Français, des jeunes Français, ont été emmenés par les parents sur les terres syriennes, alors qu'ils n'avaient rien demandé. Ce sont aussi des victimes de la guerre. Donc les lionceaux, on les surnomme comme ça, parce qu'évidemment, vous imaginez bien que ce sont des félins un peu dangereux, et les lionceaux du califat, parce que ce sont des enfants de l'État islamique. Mais aujourd'hui, là, voilà, est-ce que ce sont des tueurs patentés parce qu'ils ont été fondamentalisés par leurs parents, ou est-ce que ce sont des enfants que l'on peut rééduquer ? J'ai tendance à penser que oui, d'où mes derniers travaux sur le sujet.
Et c'est une question d'actualité, puisqu'on parle beaucoup du retour des djihadistes. Donc on a peut-être tendance à ne pas faire de nuance dans ce terme djihadiste, alors qu'il y en a et est fondamental. Chris, dernière question. Vos relations avec ce festival particulier des nuits photographiques ? Soyez bref, s'il vous plaît.
Je suis bref. Alors, en fait, j'avais travaillé sur les migrants subsahariens en Algérie il y a 2 ans. Et je cherchais, au-delà de la presse, à montrer ce sujet qui est très mal connu. Et en cherchant, je suis tombé sur le festival des nuits photographiques d'Issaouira, qui est visiblement la petite sœur, c'est le surnom des nuits photographiques de Pierre Vert. Et j'ai commencé en fait à m'infiltrer dans ce réseau il y a quelques années via Issaouira, qui est une ville que j'adore. Voilà, et j'ai découvert Pierre Vert à la suite de ça. Tout le monde m'a dit, il faut que tu viennes à Pierre Vert. Et c'est aussi simple.
Et puis nous avons découvert Chris Subi. C'est un plaisir. Et puis merci. Évidemment, c'est très utile de savoir ce qui se passe dans ce pays magnifique qu'est la Syrie. Et l'exposition est visible donc à la rue de la Frache, à Pierre Vert, et bon séjour à Pierre Vert. On espère vous revoir avec peut-être d'autres sujets un peu plus souriants, qui sait.
Merci
qui
à sait. Vous.
Merci Chris. Alors justement, quelque chose de plus souriant, depuis quelques années existe à Pierre Vert un festival off avec des gens de Pierre Vert qui ont dit on va faire notre propre festival, et j'ai le plaisir d'accueillir deux de ces jeunes photographes, Karine Duré et puis Florence Dibon qui sont à nos côtés. Florence, très rapidement, comment est-ce que vous avez eu cette idée de créer un festival off ?
Bonjour Stéphane, bonjour François. C'était logique avec les nuits photo, où on est partie prenante depuis la création. On aime la photo, notre idée c'était de participer à cet événement à notre façon, et d'impliquer surtout les pierres vertes dans la population locale et de leur donner l'occasion de montrer leurs photos aux pierres vertes et aux photographes pendant les nuits de pierres vertes.
Alors, il n'y a pas de photographe professionnel dans votre équipe, mais il y a des gens qui adorent la photographie et avec beaucoup d'inspiration. Vous-même, vous avez photographié un pigeon.
John, les amis de John. Ben oui, j'ai eu cette chance d'apprivoiser un pigeon que ma fille avait retrouvé tombé du nid. Et ça a été effectivement une véritable histoire d'amour, de famille. Pour les enfants, ils faisaient vraiment partie de la famille. Et tous ceux qui ont connu John ont été subjugués. C'est pour ça que, comme il disait notre collègue à côté, j'ai voulu quelque chose de léger cette année par rapport au confinement, par rapport à tout ce qui se passait. Et il y a Artus Bertrand, et effectivement, aussi, ça a joué. Et j'ai dit, John, il faut le mettre en scène, et c'est ce que j'ai fait. Et je me suis régalé.
Et en même temps, c'est exposé aussi chez vous, ici à Pierre Vert, à vos côtés, Karine, qui, elle, a photographié des animaux un petit peu plus gros qu'un pigeon, et surtout des égliers. C'était en Mongolie, Karine.
Oui, ça s'est passé pendant un voyage en Mongolie, juste avant le confinement, début février. On est arrivé à la Bari Krak, et on a eu la chance de pouvoir vivre pendant une grosse semaine, carrément dans une famille d'égliers, dans l'Altaï, donc complètement à l'ouest de la Mongolie, à côté d'Ulgi, où les Kazakhs ont la coutume, si on peut dire, ils perpétuent cette coutume de soigner, d'élever des aigles qu'ils vont prendre au nid, qu'ils élèvent pendant 7-8 ans, pratiquement que des femelles qui sont beaucoup plus agressives pour la chasse, qui chassent mieux, et ils les relâchent après au bout de 7-8 ans, ils sont capables de, ils peuvent aller chasser et vivre et se reproduire pendant 15 à 20 ans ensuite.
Alors c'est un sujet passionnant, mais au niveau visuel, qu'est-ce que ça dit les aigliers de Mongolie ?
Au niveau visuel, c'est des hommes qui sont sur des poneys, parce que c'est quand même pas des grands chevaux, qui sont quand même 1m90 avec des chevaux qui passent partout, et à leur main, à leur bras droit, des aigles qui font 8-10 kilos. Et ils sont là, ils passent, déjà, il faut dire qu'on est sur un plateau à peu près de 1700 mètres d'altitude. Et pour que l'aigle puisse chasser, il faut monter un peu plus haut. Donc, on va monter de 200, 300 mètres sur des collines avoisinantes. Et on a participé à leur chasse. Enfin, on a plutôt fait de la chasse à l'image, parce qu'ils ont quand même bien joué le jeu. Et c'était des fois des rafales pendant 10 minutes, 15 minutes, où ils passaient devant nous. Ils étaient deux. On avait la chance d'avoir l'oncle et le neveu. Et ils passaient devant nous avec leurs aigles à bout de bras, avec les ailes grandes ouvertes, à fond les ballons. C'était génial. Et après, on les a vus chasser, on les a vus dresser leurs aigles, enfin continuer à dresser leurs aigles. C'était vraiment, au niveau visuel, c'était fantastique.
Et le fait de partager justement ces visions et puis ces photos aussi bien Florence que vous-même ici à Pierre Vert, notamment au jardin de Jeannette, hein, qu'il faut voir absolument, c'est juste au-dessus de la salle polyvalente. Qu'est-ce que ça représente pour vous ?
Moi, j'aime les images des autres et j'aime partager mes images aussi. Je suis curieuse de tout. J'ai toujours eu cette passion. D'abord, c'est les chevaux et la photo après. Et j'ai toujours aimé regarder et puis me dire, tiens, comment je pourrais fixer cette image. Je suis pas du tout professionnelle, je fais tout au feeling, même un appareil photo, petit à petit j'évolue dans ma technique, mais laborieusement. Mais ce que j'aime, c'est me demander comment on pourrait fixer cette image, qu'est-ce que ça donnerait. Voilà, je suis toujours en train de me dire, et donc c'est vrai que partager mes images et puis aller voir celles des autres, et on apprend toujours de ce que font les autres. C'était une occasion assez inespérée, quoi, que m'a fait partager Florence.
Et Florence, le fait d'exposer, qu'est-ce que ça représente ?
Ah, bien de partager, effectivement. En plus, moi, c'est juste en face de la maison, alors je me cale sur ma terrasse et je regarde les gens qui s'arrêtent. Alors, ils en regardent une, bon, un pigeon, deux, et puis d'un coup, je les vois, ils regardent toutes les photos, ils rentrent dans les détails et tout. Il y en a qui croyaient que j'avais mis un pigeon sur les photos. J'ai dit non, non, c'est mon pigeon dans la réalité. Non, juste pour revenir au niveau donc de l'étoffe des nuits et du collectif OFF qu'on a créé pour... Donc ça, c'est notre premier événement officiel, mais on espère en faire d'autres par la suite pour développer le côté culturel et artistique au niveau local. Vous retrouvez donc notre petit programme parce que toujours en cours, la balade photographique qui vous amène dans le centre ancien de Pierre Vert. Ça, c'était important aussi pour nous de faire le lien avec le IN, enfin avec les nuits photos, le IN et le OFF. Eux, ils sont plus excentrés. Et nous, on a voulu recentrer sur le village. Et ça permet aux gens de déambuler. Donc n'hésitez pas, jusqu'à demain, toutes les expositions sont en place et vous pouvez déambuler dans le village.
Et rencontrer bien sûr ces photographes de non pas de métier mais de cœur, parce que vraiment, et de passion, donc n'hésitez pas à aller les voir. Stéphane, on arrive à la fin de cette émission. On rappelle que le festival n'est surtout pas terminé, il y a encore une belle soirée et puis demain.
Tout à fait, je voulais rappeler juste que Florence a été une des premières à héberger des invités, et j'ai même reçu Florence et son fils à New York. On avait proposé à l'époque la vision de New York par un enfant, et ça avait été projeté à Pierre Vert.
Je crois même avoir reçu son fils en interview sur un plateau dans une édition précédente de ces émissions.
Donc effectivement, le festival n'est pas terminé. On a un vernissage en cours actuellement. Le vernissage de Laurent ce soir à 18h. Et plein d'autres choses. Je vous invite à relire le programme, hein, présentation par Céline Ravier de son livre cet après-midi à 16h. Voilà, et puis bien sûr la projection ce soir à 21h.
Donc ne ratez pas les nuits photographiques de Pierre Vert. On arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup aux personnes qui ont fait le déplacement et qui sont présentes dans la salle, ici même à la salle polyvalente. Merci à toi Stéphane et à toute ton équipe.
Merci à toi et à toute ton équipe, parce qu'il faut souligner que tu es un fidèle des nuits photographiques. Voilà.
Demande-toi pourquoi, j'adore ça bien sûr.
Bon festival.
Merci Florence. Et j'en profite aussi pour remercier mon équipe, Manu et James. À bientôt.